7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre contre l'école au Sahel. Intimidation d'enseignants, assassinats, destruction d'écoles. Résultat, près de 245 000 enfants sont privés d'école au Mali, des dizaines de milliers au Burkina Faso, mais également au Niger ou encore dans la région du lac Tchad. Alors pourquoi les djihadistes s'en prennent-ils à l'école? Comment réagissent les populations? Peut-on sécuriser les classes et faire revenir les enseignants dans un contexte qui ne cesse de se dégrader? Nous allons en parler avec nos invités. Ibrahim Agassarid, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le studio de 7 milliards de voisins. Vous êtes enseignant, directeur d'école au Mali depuis près de 20 ans. Vous avez rouvert votre école privée communautaire, l'école des sables, dans le nord du Mali, à 50 km de Gao, après plusieurs années de fermeture. Vous avez rouvert en 2016. Pendant ces années de fermeture, vous aviez trouvé refuge avec une partie de vos élèves au Burkina Faso. Vous êtes Touareg, ex-enfant nomade, et aujourd'hui infatigable défenseur de l'éducation comme facteur de paix. Votre témoignage est précieux parce que, évidemment, la plupart des Occidentaux ne peuvent plus se rendre pour mener des missions d'expertise dans ces régions-là. Avec nous également dans le studio, Audrey Nierengarten, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste éducation et Sahel à l'Agence française de développement. Laurent Bossard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous si vous êtes enseignant ou parent d'enfants déplacés. Le numéro de téléphone du standard, c'est le 33 1 84 22 71 71. C'est aussi un numéro de téléphone WhatsApp gratuit et vous pouvez aussi envoyer des messages écrits sur ce WhatsApp si vous avez de la connexion Internet là où vous êtes. En fin d'émission, on entendra le témoignage d'un jeune juge nigérien à Niamey confronté à la menace djihadiste, notamment chez les jeunes magistrats, dans un système judiciaire qui est déjà saturé. Voilà. Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Nous sommes en ligne avec un voisin, Abderrahman, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Abderrahman.
Bonjour à tous vos invités, oui.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à Mogui, dans la région de Mopti.
Oui.
Quelle est la situation? Où en êtes-vous exactement?
Alors, exactement, nous sommes dans une situation un peu délicate car nous subissons des intimidations de la part de ces terroristes-là qui se disent islamistes et qui nous empêchent vraiment de faire correctement notre métier d'enseignant.
Quels sont les faits? Qu'arrive-t-il à votre école depuis quelques mois?
Alors, ils sont venus, bon, pratiquement ils sont venus l'année dernière, ils sont passés dans une école en proférant des menaces dans une école. Et ensuite, ils ont fait passer les formations dans toutes les écoles comme quoi ils viendront brûler tous les matériels et autres qui se trouvent à l'école, comme quoi que l'école, l'enseignement occidental, c'est du péché, c'est du haram.
Mm-hmm. C'était haram, oui. Votre école a été menacée l'été dernier?
Oui, notre école a été menacée.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle fonctionne avec combien d'élèves par rapport à sa capacité normale? Combien d'enseignants sont partis?
Alors, l'école, comparé à l'année dernière, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui sont absents et des enseignants aussi. Malgré qu'ils ne sont pas partis très loin, mais ils ont peur de venir faire correctement leur métier.
Et vous, pourquoi êtes-vous resté, Abderrahman?
Moi et avec quelques collègues également, nous partons, mais pas régulièrement, nous partons quelques fois pour pouvoir maintenir les enfants, pour qu'ils n'aillent pas, pour qu'ils ne puissent pas partir à l'aventure ou ailleurs. Donc nous partons des fois pour faire quelque chose et...
Comment faites-vous pour continuer à enseigner au quotidien, Abderrahman, dans cette situation? Est-ce que vous avez peur, vous, en tant qu'enseignant?
Oui, effectivement, j'ai peur, car c'est logique dans une zone comme ça, où vous entendez dans certains endroits que vos camarades ont été fouettés, ou bien ceci, ou bien ont été enlevés, bon, maintenant, se rendre pour travailler dans ce contexte-là, c'est vraiment difficile.
Et vous vous sentez visé, Abderrahman, parce que vous êtes enseignant?
Oui, effectivement, je me sens visé.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Abderrahman, en direct de Mogui, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous et d'avoir trouvé aussi un endroit où la ligne passait correctement, parce que c'est pas simple de vous joindre. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Ibrahim Agassarid, votre école est dans le nord du Mali. Comment vous réagissez à ce témoignage?
Alors, c'est très triste d'entendre ça, qu'une mission des enseignants qui n'est pas vraiment politique, qui n'est pas vraiment... ils apportent, ces enseignants, de l'enseignement qui n'est pas forcément... c'est pas l'enseignement haram. On n'enseigne pas la religion des autres. On n'enseigne pas le mode de vie des autres. C'est juste un langage, le français, que partagent beaucoup de pays, et c'est un moyen de travail. C'est un moyen d'aller lire les livres, avoir accès aux connaissances qu'ils contiennent.
Votre école, l'école des Sables, se situe à 500 km à peu près, hein, de Mopti, de là d'où vient nous appeler cet auditeur. Vous êtes beaucoup plus au nord. Est-ce que la situation est la même près de Gao, où vous avez réinstallé votre école?
Alors, elle n'est pas la même. Il faut dire qu'avant la crise, nous n'avons pas la même situation. Avant la crise, nous sommes beaucoup plus au nord, dans des zones beaucoup plus isolées. Et généralement, les enseignants qui vont là-bas, ce n'est pas des bons cœurs, parce que les conditions d'accueil ne sont pas les meilleures. Ils arrivent dans un village, ils doivent enseigner et les conditions ne sont pas les mêmes. L'accompagnement de l'État, les salaires ne changent pas. Les primes de ces zones-là n'est pas octroyée comme il faut. Donc, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas d'encouragement. Et donc, ces enseignants ne cherchent qu'à partir.
Y compris avant 2012, vous voulez dire.
Ça, c'est déjà avant 2012. Et s'il faut rajouter l'insécurité aujourd'hui, ça fait vraiment quelque chose. Sinon, nous, ces écoles, après 2012, les structures ont été détruites. Et puis, les enseignants sont partis. Et depuis 2015, après l'accord, on peut rouvrir ces écoles-là et on n'a pas ces menaces qu'ils ont tous les jours. Nous, ce qu'on a, les écoles sont détruites. Il faut les réhabiliter. Les enseignants sont partis. Il faut les faire venir. Mais partout, dans quel cas où c'est possible, les écoles sont ouvertes.
Vous voulez dire que paradoxalement, dans le nord du Mali aujourd'hui, vu l'état du système éducatif, la menace djihadiste n'est pas aussi intense contre les écoles que dans le centre du Mali?
Alors, oui, il y a cette nuance, parce qu'au nord, on suppose que les écoles qui rouvrent, c'est les communautés qui se sont mises ensemble pour ouvrir leur école. C'est leur école, donc les djihadistes, la menace n'est pas pareille. Au centre, c'est l'école de l'État. L'État n'est pas très loin, donc pour atteindre l'État, il faut s'attaquer au moindre symbole. Donc là, c'est la seule différence qu'on a avec eux.
Alors, votre école que vous avez rouvert en 2016, pas tout à fait d'ailleurs au même endroit, à une cinquantaine de kilomètres de l'endroit où elle existait auparavant, cette école maintenant compte 73 élèves de 6 à 10 ans. Donc vous êtes installé dans un village de 600 habitants à Aguinfanana, à 50 kilomètres de Gao. Auparavant, il faut raconter votre histoire, parce que la première école des Sables avait été créée en 2002, toujours dans la région de Gao, à Taboy, dans le cercle de Bourem. 5 ans plus tard, vous avez plus de 200 élèves. Une grande partie d'enfants sont nomades, pensionnaires. Votre école affiche à cette époque-là parmi les meilleurs taux de réussite au brevet à l'entrée en 6e. Enseignement tout en français. C'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui.
Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je vais juste seulement dire que pourquoi on n'est pas revenu à Taboy. Parce qu'il faut réhabiliter l'école, il faut réhabiliter l'internat. on n'a pas ces moyens. On a choisi pour ouvrir l'école, l'approcher de la communauté d'où sont ici ces élèves. Donc il n'y a plus d'internat en tant que tel.
C'est-à-dire des élèves Touareg ?
Des élèves Touareg. Donc ils sont proches de leurs parents, on n'a plus l'internat, on a seulement la partie pédagogique à assurer. Et les enseignants que j'ai aujourd'hui, en plus de moi, c'est mes premiers élèves de la première école. Ils sont d'accord, ils ne sont pas payés, ils sont volontaires et ils sont issus de la même communauté. Ils veulent donner la chance aux enfants qui sont là. Et il faut aussi le préciser que tout ça, grâce à l'effort de la communauté et grâce à l'association partenaire des petites associations, je vais les citer, Teriasso à Paris, École des Sables à Bordeaux, Les Petits Princes à Angers. C'est grâce à ces petites associations avec des
petits dons, parce que vous ne parvenez pas sinon à obtenir quelque chose de l'aide internationale.
Exactement.
Pourquoi tout recommencer, Ibrahim Agassarid, à 57 km de Taboy, alors que les enseignants sont partis de ces régions? Pourquoi tout recommencer?
Alors, il faut dire qu'on ne peut pas imaginer des générations sans éducation. Il ne faut pas non plus vouloir toujours le meilleur cas. C'est-à-dire, il faut des enseignants bien formés, il faut des élèves, il faut des bâtiments. Ça, c'est l'idéal. Mais à défaut, comme on dit, de sa mère, on tête sa grand-mère. Donc, si les enseignants qualifiés ne sont pas là, il ne faut pas arrêter l'école. Quel qu'en soit, ce qu'on peut faire dans les classes est toujours meilleur que de laisser les enfants divaguer dans la rue ou ailleurs.
Vous allez bien sûr rester avec nous, vous réintervenez quand vous le souhaitez, Ibrahim Agassarid. Je vais laisser la parole à Audrey Nierengarten et à Laurent Bossard pour qu'on essaye de comprendre quelle est au juste la situation. Audrey Nierengarten, c'est au Mali que le fonctionnement de l'école est actuellement le plus perturbé. Si on prend les pays du Sahel, Burkina, Niger, Mauritanie, Tchad.
Tout à fait, on compte actuellement près de plus de 800 écoles fermées au Mali, ce qui correspond à quasiment 240 000 enfants déscolarisés. Ce sont les dernières estimations des Nations Unies. 240 000 enfants, ça représente presque 10% de la population des enfants scolarisés au Mali. La majorité des écoles, près de 60%, est dans la zone de Mopti, donc dans la zone du centre, en effet. On constate que depuis 2012, de nombreuses écoles ont réouvert, mais plus d'écoles ont fermé pour les raisons que Ibrahim mentionnait. Ce qu'il faut voir, c'est que ces fermetures d'écoles viennent interrompre donc la scolarité des enfants et nourrir le rang du nombre d'enfants qui n'accédaient déjà pas à l'école, qui était important, puisqu'il y avait déjà plus d'un million d'enfants, malheureusement, au Mali, qui n'ont pas démarré l'école ou qui l'ont abandonné précocement. L'enjeu aussi de la fermeture des écoles, c'est que quand un enfant abandonne l'école ou ne peut plus y aller, soit parce que son école est fermée ou parce qu'il a été déplacé de façon forcée, on constate également une recrudescence des déplacements internes au Mali en raison des violences. La difficulté pour ces enfants, c'est d'ensuite y retourner. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, Ibrahim, les enfants qui n'ont plus accès à l'école voient leur quotidien complètement perturbé. Ils peuvent être susceptibles d'être à risque de différents types d'abus ou de violences. L'école apporte un sens de normalité, d'appartenance à ces enfants. Et un enfant qui a perdu quelques mois, voire quelques années de scolarité, c'est extrêmement difficile, avec la différence d'âge, de réintégrer un cursus formel à l'école. Donc ça vient s'ajouter à des difficultés pour des populations qui sont déjà confrontées depuis de nombreuses années à une situation de crise chronique. Il y a les enjeux d'insécurité, mais on sait que, et Laurent nous en parlera peut-être, les difficultés liées à la situation climatique, à une situation socio-économique difficile, réduisent aussi les possibilités d'accès à l'école, notamment pour les familles qui ont des difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc à la fois la situation personnel des familles est difficile et le système éducatif vient est percuté, son développement est percuté par ces difficultés additionnelles, alors que de nombreux progrès avaient été emmagasinés depuis plus de 15 ans dans ces régions.
Donc là, on parlait du Mali. Concernant le Burkina Faso, on a l'impression que le problème est moins étendu, concerne un moins grand nombre d'enfants. Néanmoins, il y a des actions de grande violence, des assassinats d'enseignants, des enlèvements très ciblés finalement, qui créent un climat de terreur, notamment dans le Nord.
Là aussi, on recense actuellement plus de 900 écoles fermées, avec un chiffre qui augmente, et ce qui pourrait toucher plus de 140 000 enfants. Donc les difficultés sont multiples. Il y a à la fois des attaques directes et des violences directes, un climat d'intimidation, comme l'auditeur nous le mentionnait, et en effet une désaffection dans ces zones des fonctionnaires, donc non seulement les enseignants mais aussi les autres personnels éducatifs nécessaires au bon fonctionnement du système abandonnent leur poste par crainte des risques sécuritaires qu'ils encourent à titre personnel.
Laurent Bossard, est-ce qu'on peut dire, donc vous êtes au club du Sahel à l'OCDE, est-ce qu'on peut dire que la situation de déscolarisation, de fuite des enseignants colle parfaitement à la situation sécuritaire de ces différents pays?
Elle est corrélée, évidemment. D'abord, je voudrais dire, confirmer, parce que effectivement, le centre de gravité de l'instabilité et des menaces s'est déplacé. Maintenant, il est aux confins des trois pays, du Mali, du Niger et du Burkina. C'est un espace beaucoup plus réduit qu'il y a 10 ans, par exemple, ou qu'il y a encore 5 ans. Il y a 5 ans, on était sur, si on regardait l'ensemble des attaques, on était sur quelque chose comme 2 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, on est sur l'essentiel des attaques, c'est sur 200 000 kilomètres carrés. Finalement, c'est pas si grand que ça, mais c'est aux confins de ces trois pays.
Mais dans une région qui est plus peuplée.
Et dans une région qui est beaucoup plus peuplée.
Par rapport au nord du Mali.
Alors ça, c'est, ça me semblait important de confirmer ça. Il y a manifestement le développement d'une doctrine qui était celle de Boko Haram auparavant, qui était qu'au fond, la meilleure façon de dominer les gens, c'est de les empêcher d'aller à l'école et de les endoctriner. Ça, c'est un constat que je fais. Mais moi, je voudrais aussi, au-delà des souffrances immédiates qui sont immenses, souligner qu'à mes yeux, on est là face à une menace majeure pour la stabilisation à long terme de ces espaces. Alors pourquoi je dis ça ? Rappelez qu'on est dans des pays qui aujourd'hui sont sur des trajectoires démographiques qui n'ont quasiment pas ou même qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est dans des pays dont la population va doubler avec certitude dans les 20 prochaines années. Alors, si on revient aux enfants, j'ai ramassé quelques petits chiffres en prenant l'exemple du Mali. Aujourd'hui, au Mali, il y a probablement un peu moins de 6 millions d'enfants entre 5 et 14 ans. Donc, il y en aura le double dans 20 ans. Il y en aura 50% de plus dans 10 ans. C'est extrêmement court. Ce sont des trajectoires absolument vertigineuses. Et pour suivre ces trajectoires en termes d'éducation, effectivement, il y a des efforts qui sont faits depuis un certain nombre d'années, mais ces efforts sont très insuffisants. Très, très insuffisants.
Au regard de la pression démographique.
Absolument. On est aujourd'hui dans des situations, vous pourrez en parler aussi.
Et rendu difficile par l'insécurité qui règne.
Alors voilà, donc l'insécurité aujourd'hui, c'est une pierre, une contrainte additionnelle, une menace additionnelle sur le fait que ces pays puissent un jour se stabiliser et se développer. Et je voudrais insister, même si ça ne fera pas nécessairement plaisir à tout le monde, sur un point, qui est que les plus hauts dirigeants de ces trois pays le disent, pas nécessairement en interne. Mali, Burkina, Niger. Il faut que dans les 20 prochaines années, on fasse diminuer drastiquement la croissance démographique. Et ceci passe d'abord et avant tout par l'éducation des filles. Voilà. Et aujourd'hui, ce que l'on voit sous nos yeux, l'éducation des filles n'est déjà pas brillante dans ces pays-là. Et ce qu'on voit sous nos yeux, c'est un phénomène qui, finalement, va empêcher ça. Et ça, c'est une menace majeure pour l'avenir de ces pays.
Ibrahim Gassarid, Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, vous, en tant qu'enseignant dans le nord du Mali? Il y a eu des tentatives, notamment via des ONG, par exemple, d'introduire de l'enseignement à la sexualité, avec les difficultés que l'on connaît. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Laurent Bossard sur la nécessité de réduire avant tout la pression démographique?
Alors, ça, c'est... Je suis d'accord que la réduction de la croissance ne peut passer que par l'éducation. Et l'éducation, c'est les filles. On est des filles à l'école. Et que ces filles, une fois à l'école, ça se passe tout simplement par ce qu'elles vont apprendre à l'école, leur santé, l'économie. Tout dépend de leur éducation à l'école. Découlera de conclusions qu'elles peuvent donner une fois mariées dans leur famille, même si elles savent réduire, parce que elle est avertie que si elle a beaucoup d'enfants et que ses enfants n'auront pas tous la même chance. Et je ne sais pas comment...
Dans le contexte de l'insécurité, de la pression djihadiste, est-ce que c'est un discours qui est audible?
Alors, justement, il n'est pas audible.
Acceptable.
Il n'est pas acceptable. Et j'ai aussi rejoint Laurent, parce que dans les écoles, nous, on a le statut d'école publique, école laïque. Mais nos dirigeants au sommet... ils sont au dictat des religieux. Donc ça, les religieux...
Pour des raisons électorales?
Pour des raisons électorales. On ne peut pas dire ça. Donc, nous, dans les écoles, on essaie d'être le maximum à suivre l'État, les directives qui sont données par le ministère de l'Éducation nationale sur le genre, sur beaucoup de choses.
Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que vous laissiez les enfants suivre un enseignement religieux, je crois, le mercredi après-midi et le jeudi après-midi, hein.
Alors, c'est la grande...
C'est pas incompatible.
Non, c'est pas incompatible.
D'accord.
Quand j'interviens ailleurs dans les écoles privées catholiques en France, il y a bien l'enseignement, le catéchisme dans les écoles. Ce n'est pas incompatible. Et nous sommes dans un pays à majorité musulmane. Je ne vois pas pourquoi un imam contrôlé par les communautés ne viennent pas donner de l'enseignement religieux, oui, pour les enfants à l'école.
Bien sûr. Je redonne le numéro de téléphone. Vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer. 33 1 84 22 71 71. Ben nous appelle de Niamey au Niger. Bonjour Ben.
Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs et bonjour à tous les voisins et les voisines.
Ben, vous êtes un père de famille, un garçon de 7 ans, une fille de 5 ans. Vous habitez aujourd'hui à Niamey, vous avez fui Difa, la région proche, la région frontalière avec le Nigeria et le Tchad. Pourquoi?
Ah, tout d'abord, je suis un père de famille. Ce qui m'a poussé à fuir Difa, c'est l'insécurité qui règne dans la sous-région du pays.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vos enfants?
À chaque fois quand les enfants partent à l'école, ils sont vraiment traumatisés par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu par rapport à l'insécurité qui règne dans la sous-région des Difa.
Mais plus précisément, vous pouvez nous expliquer les problèmes aujourd'hui de vos enfants?
Oui, les enfants sont tellement traumatisés. À chaque matin, quand je me lève... Actuellement, je suis à Niamey. À chaque matin, quand je me lève pour les accompagner à l'école, une fois entré, franchi le portail, ils se mettent à hurler. « Papa, pourquoi tu nous laisses? Il y a les terroristes qui vont venir. » Ça affecte vraiment leur vie psychologique.
Ils sont traumatisés. Le ministère parle de 150 écoles déplacées, non pas fermées, dans cette région. Est-ce que vous confirmez que les écoles ont bien rouvert hors des zones à risque ou pas? Pourquoi vous êtes venu à Niamey?
Ah, ce qui m'a fait venir à Niamey, c'est d'abord la sécurité, la propre sécurité de ma famille, mes enfants et ma famille. Même s'ils disent que les écoles auraient ouvert, là, je ne peux pas croire, parce qu'il y a vraiment l'insécurité dans la vie des Difa. Il ne se passe une journée ou une semaine ou un mois sans qu'il y ait eu la chasse.
Merci Ben de nous avoir appelés. On donne la parole aussi à Dany qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Dany.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute, vous êtes en direct, vous n'êtes pas à proprement parler dans un pays du Sahel, mais bien sûr vous avez la parole.
Oui, et j'appelle du nord, j'appelle du Cameroun.
Oui.
Oui, je vous écoute Emmanuel, oui, j'appelle du Cameroun. Le Cameroun, sans toutefois être le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso, subit le même problème. C'est-à-dire qu'il existe un phénomène d'école, cette fois-ci pas d'école fermée, mais d'école dont les enseignants ne viennent pas donner des cours.
Vous voulez parler de vos neveux qui étaient scolarisés dans un village à la frontière du Nigeria, c'est bien cela
Oui, protocole.
À Protocole. Hein. Oui. Et donc, oui. Qui ont été menacés par des attaques de Boko Haram.
Des précédents d'attaques de Boko Haram, mais les répercussions existent depuis un certain temps. Il n'existe plus d'attaque. Mais la peur d'une future attaque est omniprésente et par conséquent, les gens se sentent donc obligés de se déporter pour d'autres villages, pour d'autres villes. Donc, à l'extrême nord Cameroun, nous ne souffrons pas d'un problème d'école fermée. Les écoles, elles sont ouvertes, mais il n'y a toujours pas d'enseignants qui enseignent. En général, les enseignants ne viennent pas du nord du Cameroun. En général, les enseignants viennent de très loin, de près de 1000 km de Yaoundé, voilà, de l'Est. C'est des fonctionnaires qui sont forcément parfois affectés très loin de leur zone d'origine. Et du coup, vous voyez, un jeune enseignant résident à Yaoundé et pour besoin de travail, se trouve affecté dans une zone extrêmement reculée du pays. Alors forcément, vous comprenez, avec la peur, l'omniprésente peur, l'omniprésente, c'est pas le fait d'être toujours sous en alerte et tout, le fait d'être exposé à une éventuelle attaque, les pousse à ne pas donc aller enseigner. Et vous voyez, vous avez affaire à des milliers de jeunes qui se retrouvent à l'école et sans enseignants.
Sans
enseignants. Le but n'est pas d'avoir une école fermée, mais plutôt d'avoir une école ouverte dans laquelle on peut trouver des enseignants.
Ouais. Merci Dany hein, pour avoir mis effectivement l'action sur le point sensible à l'heure actuelle. Hein. Ce n'est plus Ibrahim Agassarid, le manque de locaux scolaires, mais bien précisément le manque d'enseignants. Ibrahim Agassarid, dans le nord du Mali, cette situation n'est pas nouvelle. Les enseignants ont toujours été réticents à occuper des postes très très loin des grands centres urbains, des grandes villes. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont les enseignants et quelle est la responsabilité de l'État pour vous, à vos yeux, dans cette situation ?
Alors, il faut dire que je rejoins complètement cette situation qui se passe au Cameroun. Je me vois dans cette situation au Mali il y a quelques années. Ce n'est pas compatible, je pense, si on veut avoir un résultat, d'envoyer un enseignant qui ne connaît pas la zone et ce n'est pas le même climat, c'est pas les mêmes. Tout est très différent. Comment cet enseignant peut avoir un résultat? Et en plus, quand il va là-bas, il se sent oublié. Et le pont est presque coupé avec une nouvelle mutation, un avancement, qu'il soit au courant de ce qui se passe. Donc, généralement, ils abandonnent ou ils profitent des vacances, ils ne reviennent plus. Et ça, je pense que dans les stratégies de l'éducation nationale, c'est là où il faut mettre sur table ce problème. Et impliquer les communautés locales dans, je vais parler du futur de l'école désormais, il ne faut pas exclure les communautés locales et l'approche de la réalité d'aujourd'hui.
Vous voulez dire que ces enseignants, à l'heure actuelle, hein, ils perçoivent tous leur salaire, même s'ils ne sont plus dans leur salle de classe, ils ont l'argument du problème sécuritaire. Aujourd'hui, pour vous, le fond du problème, c'est ça, c'est que ce ne sont pas des communautés locales qui sont impliquées dans les métiers de l'enseignement.
Exactement. Il faut dire que le Nord, pendant longtemps, le Nord du pays, le taux de scolarité n'est pas le plus la meilleure, on va dire le c'est-à-dire on peine à recruter parce que le Nord les gens ils soient nomades, ce n'est que dans les années 90 qu'ils ont commencé à comprendre et à créer des écoles et les premiers enseignants forcément ils viennent du sud ou d'ailleurs.
Donc ils n'étaient pas motivés. Aujourd'hui, vous iriez jusqu'à dire que dans le nord du Mali, les enseignants prennent prétexte de l'insécurité pour déserter leur poste?
Alors, je ne veux pas généraliser. Je sais bien qu'il y a des enseignants, quelque part, qui ont très envie de retrouver leurs élèves, leur classe, mais il y a une bonne partie qui prétexte l'insécurité pour ne pas rejoindre leurs écoles. Parce qu'on les voit dans d'autres situations, ils sont recrutés par une ONG ou par une association pour faire une enquête. Ils passent dans les mêmes villages où ils donnent cours pour une autre mission. Donc, si vous êtes en insécurité parce que vous êtes enseignant, pourquoi vous n'êtes pas en insécurité parce que vous êtes en enquête ou dans d'autres missions dans la même région?
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de la guerre contre l'école au Sahel avec nos invités.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Audrey Nierengarten et Laurent Bossard, vous appartenez respectivement à l'AFD, à l'OCDE. Comment vous voyez aujourd'hui cette guerre contre l'école au Sahel? On a parlé de la situation sécuritaire. Est-ce qu'il y a réellement une cible de la part des djihadistes? Est-ce que l'école est au cœur de cette cible? Et pourquoi s'attaquer à l'école en particulier? Est-ce qu'il y a, au-delà des considérations idéologiques et religieuses, des stratégies pour faire fuir les populations, pour créer du désordre? Quels sont aujourd'hui exactement les calculs, Laurent Bossard?
Alors, c'est bien compliqué de répondre à votre question. Parce que, en réalité, comment dirais-je, on n'est pas face à des groupes qui sont, je dirais, de purs djihadistes qui seraient envoyés par je ne sais quelle force venant d'Al-Qaïda ou de Daesh, etc. On est dans des dynamiques qui sont une forme de mélange entre des problématiques anciennes avec de profondes racines locales et puis des références effectivement à ces marques internationales que sont Daesh et Acme. Donc on est dans cette complexité là. Alors, si on se place du point de vue, je dirais, purement idéologique, il est clair que, et ça a été beaucoup développé par Boko Haram, il est clair que il y a une réflexion qui est simple, qui consiste à dire on va empêcher ces gens-là d'aller à l'école, d'apprendre à lire, d'accéder à l'éducation impérialiste européenne, etc. Et de façon à garder ces populations à notre main. Voilà. Et de façon, j'insiste quand même là-dessus, à surtout maintenir les femmes dans des conditions absolument insupportables. Je rappelle que dans un pays comme le Niger, il y a encore un tiers des filles qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. Enfin, c'est absolument insupportable. Et ça, je pense que quelque part, d'un point de vue purement idéologique, il y a cette idée-là. Bien. Alors, maintenant, la question, c'est pourquoi des groupes comme Ansaroul, comme la Katiba du Massina, etc., reprennent cela? Moi, je n'ai pas vraiment la réponse. Je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'analyse de ces groupes. Je sais que Amadou Koufa, donc celui qui a créé la Katiba Massina dans le centre du Mali, avant d'être tué, avait pas un discours anti-enseignant, me semble-t-il. Il a même fait un discours en disant il faut pas toucher aux enseignants, ni aux chrétiens, ni etc. Il faut cibler sur la France et sur la MINUSMA, etc. Bon, il a été tué en 2000, il y a pas très très longtemps, etc. Et on voit cette explosion de menaces sur l'école. Je ne peux pas expliquer réellement. Je pense que c'est un mélange de cette idéologie, mais ce n'est pas simplement, c'est pas 100% cette idéologie. Je pense qu'il y a aussi une volonté locale de maîtriser des territoires. Voilà.
Audrey Nierengarten?
Oui, ce qui est important peut-être aussi de signaler, c'est que la situation, par sa complexité, implique de fait des réponses multiples, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir travailler Et c'est le cas de nombreux enseignants, d'autorités éducatives, d'ONG, de bailleurs, aidés à la remise en route rapide de services éducatifs par des alternatives, en essayant de proposer des formations courtes, de l'éducation non formelle, peut-être aussi des moyens de scolarisation qui correspondent à des demandes locales et qui recueillent un peu plus l'adhésion des populations, tout en travaillant sur le long terme et l'appui au renforcement de politiques publiques qui permettent de démontrer une plus grande capacité d'accueil face à l'enjeu démographique de l'éducation, mais aussi d'assurer que les enfants apprennent et que cette offre éducative, elle se déploie sur l'ensemble du territoire, puisqu'on voit, c'est les zones frontières qui sont déjà les plus fragiles.
Ibrahim Agassarid, est-ce qu'il n'y a pas eu... Le Mali a beaucoup progressé ces 20 dernières années dans l'accès à l'école, mais concernant la qualité de l'enseignement, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans les familles aussi, une vraie déception liée à la massification de la scolarisation, avec des enseignants qui sont mal formés, pour ne pas dire pour certains illettrés? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie défiance aussi vis-à-vis de l'école telle qu'elle a été pensée au Mali, à savoir l'école des Blancs?
Alors, effectivement, il y a cette réalité. Les parents sont déçus de l'école parce que certains enseignants arrivent pour avoir un salaire. La vocation de l'enseignant à l'ancien n'existe plus. Et à cela s'ajoutent les différentes innovations qui arrivent. À peine elles arrivent dans les différentes académies pour être données aux enseignants comme modules, il y a déjà un partenaire qui arrive au ministère, cette méthode change, une autre arrive.
Ouais, ça, il y a pas mal de pays où c'est comme ça, notamment la France. Mais est-ce que les systèmes éducatifs, notamment pour les minorités, comme les minorités Touareg, qui ont de fortes revendications culturelles, ne se sont pas montrés finalement incapables de proposer une éducation qui réponde aussi aux attentes des familles, dont vous faites partie de cette communauté Touareg, Ibrahim Agassarid?
Alors... Cela est valable pour les Touaregs, c'est valable pour les Sonrailles, c'est valable pour les Peuls, c'est valable pour les Dogons. Je parle du centre vers le nord. Il faudra un jour mettre sur la table un forum qui réunit ces communautés pour décider de la matière à enseigner. Et là, l'adhésion arrivera forcément. Parce que là, on nous enseigne, par exemple, un manuel qui est édité à Bamako et qu'il arrive sur une école qui est à 1500 km. On l'appelle le moyen de transport, par exemple. On parle du train, on parle de l'avion. L'enfant ne voit
c'est
jamais...
C'est encore comme ça?
Oui, il y a des manuels comme ça qui sont dans les écoles.
Quand il y a des manuels?
Quand il y a des manuels.
De toute façon.
Alors ça, pour donner justement aux parents une responsabilité et pour encourager leur bonne foi, il faudra les associer. Qu'on voit dans les cours de l'histoire... qu'on nous enseigne, par exemple, le héros local, l'ancêtre qui a créé le village, l'histoire locale. Et de tout le temps, c'est l'histoire qui est derrière qu'on nous enseigne. Les gens pensent que cette histoire ne nous concerne pas. Il faut cette géographie, il faudra inclure les réalités locales. L'implication, il ne faut pas négliger l'implication locale. Ce n'est pas en contradiction avec l'État unitaire. Ce n'est pas en Je vois en France, chaque région où je passe, il y a les localités, la culture locale.
Comment vous justifiez auprès des familles dans le village où vous enseignez aujourd'hui à Agimfanana, à 50 km de Gao, comment vous justifiez que vous enseignez encore en français alors qu'il y a plein de familles qui veulent mettre leurs enfants à l'école coranique?
Alors, déjà, il faut dire que l'école coranique ne débouche pas sur un emploi. L'école coranique, quand elle n'est pas maîtrisée, peut être dangereuse. Dangereuse pour celui qui l'apprenne comme ça et pour ceux chez qui il va prêcher. Donc, c'est les communautés locales, on leur dit le français. Ce n'est pas le français de France, Ça peut être les Français de Sénégal, les Français de la Tunisie, les Français du Liban. C'est un moyen de c'est juste un support pour accéder à des connaissances. Maintenant, on n'est pas contre qu'un marabout, un imam reconnu avec sa stabilité, son éducation, arrive dans les classes, il donne des cours de religion. Et nous, on avait dit non, ce n'est pas à la mosquée ou dans un coin de rue. Non, venez à l'école. Venez le faire à l'école, on voit ce que vous faites et on est d'accord, on n'est pas contre. Tant que c'est en accord avec les autres matières que nous enseignons, telles que la lecture, le calcul.
Bon, et c'est intéressant ce que vous décrivez comme modèle. Comment se fait-il, alors Audrey Nierengarten, Laurent Bossard, avec l'Alliance pour le Sahel, il y a énormément d'argent déversé, notamment d'argent qui va être, qui a commencé d'ailleurs d'être décaissé, de financer des projets pour l'éducation. Quelles sont les priorités qui sont ciblées par rapport à un témoignage comme celui que vous avez devant vous?
Alors justement, l'aide internationale, on le sait, depuis déjà 2009, a commencé à être réduite. Et c'est très important que les bailleurs fassent plus pour appuyer les États, mais surtout mieux. Donc parmi les principes d'intervention de l'Alliance Sahel, il y a le fait d'être au plus près des populations et des territoires pour pouvoir répondre rapidement à leurs besoins. La scolarisation des filles est un axe transversal important sur cet enjeu majeur de l'employabilité des jeunes, notamment au primaire, même si il y a eu beaucoup d'efforts de fait et que la parité est presque atteinte, mais surtout sur à l'échelon du collège, donc à partir de l'âge de 10 ans, pour s'assurer que les filles finissent une éducation de base complète. Donc c'est parmi les priorités de cibler un achèvement plus grand des filles au collège et de renforcer les possibilités de formation courte qui peuvent mener à un emploi, qui inclut aussi de l'alphabétisation, y compris pour les femmes.
Laurent Bossard, un mot de conclusion, parce que je voudrais qu'ensuite on laisse la parole à un jeune magistrat nigérien.
Alors, je vais dire une parole d'un non-spécialiste de l'enseignement en rapport avec la langue. Est-ce qu'on est sûr? Moi, il me semble que la réalité de cette région, c'est que les langues parlées, au jour le jour, c'est pas le français. Ce sont les langues locales. Donc probablement, l'enseignement en langue locale doit être
renforcé, mais c'est déjà ce qui est fait.
Doit être renforcé, peut-être encore plus, d'autant plus que les langues locales sont reconnues par la Constitution au Mali, par exemple, comme elles le sont dans les autres pays. Donc probablement, dans cet esprit de reconnaissance des spécificités, la reconnaissance des langues locales me semble importante.
Ibrahim Agassarid.
Alors oui.
Vraiment un mot de conclusion.
Alors il faut inclure les langues locales et aussi les langues internationales. Pourquoi pas enseigner l'anglais au primaire? Comme ça, l'école n'est pas enseignement français seulement. Toutes les langues importantes du monde qui nous ouvrent
des
portes.
Avec les élus locaux et les chefs communautaires, parce que pour vous, c'est ça le défi aussi.
Exactement.
Merci.
Alors, je peux passer un bonjour à tous les enseignants et à tous les braves académies de la région de Gao, les DECAP, de Bourem et de Gao, qui font beaucoup de travail pour aider de ce qu'ils peuvent l'école dans ces régions difficiles.
Maintenir l'école coûte que coûte, même si, c'est vrai, on s'oriente quand même vers une génération sacrifiée. Merci d'avoir été avec nous. Pour terminer cette émission, je voudrais qu'on donne la parole à un jeune magistrat au Niger. Il y a environ 500 magistrats pour une population de 21 millions d'habitants. Les tribunaux, les prisons sont tout à fait engorgés. Les magistrats, eux aussi, il n'y a pas que l'école, doivent se former à la menace terroriste qui a bouleversé le paysage judiciaire.
C'est un module en fait qui a pour objectif d'enseigner aux auditeurs de justice les particularités procédurales qui ressortent de la loi sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, notamment les délais de garde à vue, parce que vous savez que le phénomène de terrorisme a plus lieu dans le nord du Niger. Donc les présumés terroristes sont le plus souvent interpellés à plus de 1000 km de la capitale. Or la juridiction qui est habilitée à recevoir ces charges d'infraction, elle se trouve à Niamey. Donc vous voyez, c'est presque impossible de respecter les délais de garde à vue dans ces circonstances.
Parce que quel était justement le délai de garde à vue à l'époque?
C'était 120 heures et c'était pratiquement impossible de faire tout ce trajet. Et aujourd'hui, c'est 15 jours renouvelables. au-delà de la formation théorique, j'allais dire au niveau des particularités procédurales que nous avons appris, il y a aussi des dispositions souvent qui permettent aux terroristes repentis de se retrouver souvent hors de cause. Lorsque par exemple vous décidez avant toute poursuite de vous repentir ou de dénoncer d'autres personnes qui ont l'intention éventuellement de commettre, vous êtes à l'abri de poursuite, et si vous dénoncez après la poursuite, vous pouvez bénéficier de circonstances atténuantes. Vous voyez.
Est-ce que ce n'est pas un risque de remettre à la rue des individus qui seraient de faux repentis?
Oui, mais je pense que c'est toujours une bonne chose de donner une deuxième chance à une personne. Mais si éventuellement elle fait une rechute, elle va probablement se retrouver en état de récidive. L'infraction la plus fréquente, c'est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Vous avez le plus souvent des personnes qui s'associent avec les groupes terroristes, sachant bien que c'est des terroristes qui leur fournissent peut-être du carburant, qui leur fournissent de la nourriture. Souvent, malheureusement, le problème, c'est que les terroristes aujourd'hui sont dans la société. Il est difficile de les identifier. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit, dans les années antérieures, à un taux élevé d'interpellation. Plus de 2000 personnes qui sont détenues et finalement, la plupart des procédures ont été clôturées par des non-lieux.
Il est fréquent que les prévenus soient des mineurs en matière de terrorisme. Est-ce que la loi nigérienne prévoit des textes adaptés à ces mineurs?
Oui, effectivement, c'était l'une des failles de l'ordonnance de 2011 parce qu'elle ne prévoyait pas le cas des mineurs. Or, les terroristes utilisaient souvent les mineurs et les femmes dans les attentats. Parce que peut-être ils estiment que ce sont des personnes qu'il est facile de convaincre. Vous savez, ils ont aussi cette façon de passer par le lavage de cerveau et les mineurs sont vulnérables. C'est des personnes issues de familles très pauvres auxquelles on promet des choses et qu'ils acceptent. Donc ils les utilisent. Mais dans les réformes récentes de la loi, celles de 2016 et 2017, il a été créé déjà un juge des mineurs au niveau du pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme. Donc les mineurs ont une procédure particulière qui est différente de celle des majeurs terroristes. Et souvent, lorsque le mineur commet une infraction, la loi dit qu'il ne peut être condamné qu'au maximum de la moitié de la peine encourue si la personne était majeure. Dès qu'il y a la possibilité de lui éviter la prison, on ne le fait pas. Et s'il faut prendre des mesures de protection pour le mineur aussi, le juge s'investit pour le faire. Souvent, on essaie de créer ce lien avec la famille, même si la personne est à 1000 km de sa famille, on essaie de faire en sorte qu'elle rentre en contact avec sa famille, qu'ils comprennent que, bon, écoutez, voilà, vous avez compris qu'en réalité, ces gens-là, ils ne sont pas réellement en train de vous apprendre l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. Voilà, en fait, ce que c'est l'islam. Bon, ce n'est pas ça le rôle du juge, mais quand même, on leur inculque les valeurs d'un bon citoyen.
Vous faites partie de cette nouvelle génération de magistrats. Comment vous voyez l'avenir du Niger en matière de lutte antiterrorisme? Est-ce que vous vous sentez la responsabilité de sauver le pays de cette problématique?
Oui, je suis pressé évidemment de voir ce pays guérir. J'ai bien envie de revoir le Niger d'avant où on ne connaissait même pas l'infraction terroriste. On n'avait même jamais entendu parler de ce genre d'infraction. C'est seulement à partir de 2011 que ces infractions ont été prévues par la loi. J'ai bien envie de voir ça. C'est vrai que c'est quand même une tâche très difficile vu la largeur de notre territoire et les frontières qui sont encore pas assez limitées, vous voyez. C'est très difficile, mais il faut dire que c'est une mission quand même que nous avons juré de l'accomplir. Et nous allons le faire.
Voilà, ce jeune magistrat souhaitait garder l'anonymat au Niger, donc il participe à une formation, une mission de formation des magistrats, la JUSEN, financée par l'Agence française de développement. Merci à vous, Audrey Nierengarten, justement de l'AFD, pour l'éducation. Merci à vous, Laurent Bossard, de l'OCDE. Et merci à vous, Ibrahim Agassari, de l'École des Sables, à retrouver sur les réseaux sociaux. On a mis tous les liens sur notre page, car je crois qu'on l'a compris, vous avez besoin de partenaires pour continuer d'éduquer et de mener à bien votre mission d'enseignant, de directeur d'école. Merci aussi à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera du choix des prénoms pour un enfant à naître, s'appeler Corinne ou Absatou en France. Les prénoms sont-ils un moyen d'intégration?